pourrait faire des bruits d'animaux aussi dans le générique.
Miaou.
Mmh. Un chien, un cochon.
Il fait les oiseaux, tu fais bien.
Du verre dans les oreilles.
Je pense qu'on aura un super générique.
Donc du coup, on s'est dit que ce serait mieux en allant dans les fermes.
Alors, il y a quoi? Il y a une pomme de terre. Une 1,5 kg de pâte.
Oui,
une
course.
Une course, on peut dire.
Non, là, c'est comme des carrières.
Une course,
ah, d'accord.
Ça veut dire quoi, une course? Une belle.
Il y a l'aspect local d'une part et l'aspect alors bio, pas forcément bio, mais on va dire naturel, quoi, avec le moins de produits chimiques.
Contrairement aux grandes surfaces, on sait où l'argent part plutôt que dans des investissements en bourse ou tout ça.
Il y a un aspect humain non négligeable puisqu'on est directement en lien avec le producteur.
Vu les conditions de vie et tout ce qu'on mange, les cochonneries qu'on mange, on a intérêt justement à se diriger vers des AMAP. Qui garantissent déjà leur venue aux agriculteurs et en plus qui nous garantissent de bons produits. Hein.
Et alors c'est quoi la MAP exactement?
C'est là où on vend des légumes, des fruits qui sont pas faits avec du produit chimique, qui sont dans nos jardins sans produits chimiques.
Les AMAP, association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Arrivé en France il y a une petite dizaine d'années, ce nouveau mode de commercialisation ne cesse de faire parler de lui. Le principe de base est simple, un paysan et des consommateurs s'allient au sein d'une association. Lui s'engage à leur fournir des produits sains et eux à les acheter régulièrement.
Et puisque les premières AMAP se sont développées dans le sud-est de la France, c'est chez la famille Charlier dans le Var que nous nous rendons pour en savoir plus.
Côté consommateur, des produits locaux et pas chers toutes les semaines, plutôt intéressant. Mais ça change quoi au juste pour un producteur de vendre en AMAP?
Justement, Stéphane Charlier nous a guidés pendant une semaine entre ses parcelles de légumes et ses distributions de paniers, et vous allez voir que pour lui et pour toute la famille Charlier, être maraîcher en AMAP c'est carrément un nouveau métier.
Voilà. Ouais, des cultures qui sont quand même encore... légèrement visible, la montée des carottes ici. Ensuite, à côté, tous les choux, on a à peu près 5 sortes de choux. Frisé, romanesco, chou-fleur. Ensuite, là, il y avait des aubergines, des concombres. Au bout, on aperçoit encore des cébettes, des oignons blancs. Les de Robouillon, c'est une variété... du coin, quoi.
Donc tout en agriculture biologique.
Tout en agriculture biologique. Là, ici, j'ai le label depuis 2005.
D'accord.
Voilà, ça fait 4 ans. Après, là, au-dessus, on avait fait pas mal de courges. Tout ce qui est courges butternut, c'est des courges un peu petites, arrondies. Ensuite, la muscade. Ensuite, on a les longues violons, la courge violon, on appelle ça, c'est la longue de Nice. Et bon, malheureusement, toutes ces cultures, maintenant, c'est terminé, parce que c'est déjà ramassé et récolté. Mais bon, on arrive à faire quand même pas mal de variétés. On fait entre 35 et 40 variétés de produits par an sur ce site. Et bon, l'avantage de faire plusieurs variétés, c'est que, quand, par exemple, si les carottes ont été bouffées, ben, on aura toujours les tomates à mettre dans les paniers. Ou bien des salades. On arrivera toujours à récupérer des produits pour mettre dans les paniers. Ce qui fait que... Et ça, c'est la biodiversité, en fait. Ils appellent ça la biodiversité. J'aurais bien voulu vous montrer un peu l'effet que ça fait sur la terre de ne pas mettre de désherbant. En fait, ça... Si on retourne un petit coin de terre, on y voit plus tout de suite la vie dans la terre, c'est-à-dire les lombriques... Les cloportes, les fourmis, tout ça, ça sert à comment dire, ces petites bestioles, elles servent à accélérer la décomposition des engrais qu'on met. Plutôt que de passer du désherbant, on voit tout de suite une grosse différence au niveau de la structure.
Un petit coup de main pour les topinambours?
Ouais, bah si vous voulez, ouais. Donc ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pas... Ils étaient plus beaux au fond, là-bas.
fois, il y a des gros comme ça. Mais ils sont dans les mottes, en fait.
Il faut chercher, de toute façon, comme un peu les chercheurs d'art.
Et ça fait combien de temps que t'es maraîcher, maintenant?
3 ans, ouais. Enfin, ouais, 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans que je suis à plein temps en maraîchage. Sinon, j'ai fait un apprentissage d'un an et demi dans un groupe de recherche. À Avignon.
Et t'as quel âge exactement?
25, ouais.
Pour l'instant, au bout de 4 ans maintenant, plutôt satisfait.
Ouais, satisfait, on s'en sort, ouais. Non, pas... Elles sont passées très vite, hein, non, il n'y a pas de problème. Tous ensemble, on cumule tous nos savoirs. Fin... Mon père, mon frère, ils se connaissent bien tout ce qui est mécanique. Ils arrivent bien à réparer, moi, je suis pas trop manuel. Fin... Moi, j'aime bien le jardin. Et ouais, non, on s'associe bien, ouais. Enfin, c'est dur, parce que des fois ça gueule, mais bon, c'est la vie de famille, il faut s'y faire. Ouais. C'est la vie en communauté, ouais, la vie de famille. Mais bon, quand on en a marre, moi, grâce à... Voilà, il y a aussi ça, l'aspect familial, c'est que on peut partir quand on veut, que ce soit Stéphane ou moi. S'il y en a un qui part, l'autre il suit, enfin, il fait le boulot qu'il y a. Moi, l'an dernier, j'ai réussi à partir au mois de juin, enfin, j'ai fait la transhumance des moutons avec un collègue, enfin, je suis parti 3-4 jours et... Ça m'a changé les idées, ouais. Quand j'en ai marre, je me change les idées.
Ce jeune homme à l'accent du Sud s'appelle Simon, c'est le frère de Stéphane. Et lorsque deux frères travaillent ensemble, le père n'est jamais loin. En effet, Gérard a créé l'exploitation il y a de cela quelques années. Mais alors pourquoi passer en bio, Gérard?
Ah, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi passer en bio? Ben, je vous ai dit tout à l'heure que je faisais de la rose. La rose coupée, et la rose, il faut qu'elle soit impeccable. Et les produits, alors c'était quelque chose, des cadences infernales de traitement, avec toujours un produit différent, parce que, bon, il faut d'abord tuer la bête, après la bête, elle a pondu avant de mourir, après il faut un autre produit pour tuer les œufs, hein, alors ainsi de suite, on n'en finissait pas. Et les produits primes, premièrement, qui coûtaient très très cher, puis quand on regardait les bouteilles, les trois quarts du temps, il y avait l'étiquette rouge avec la tête de mort dessus, hein, marqué poison. Alors, je dis non, c'est pas possible de continuer comme ça. Après, comme on consommait nos légumes, on n'en mettait pas. Puis, le bio, ça a commencé à en parler, mais c'était pas... Et donc, on n'avait pas le même physique ni la même mentalité que les bio de l'époque. Bon, à l'époque, Babacool, ils n'en avaient rien à faire, hein, du moment qu'ils avaient du tabac pour faire un paquet à cigarettes pour faire leur truc. C'était tout, hein, c'était tranquille. Mais on ne faisait pas vivre. C'est sûr que tous les grossistes, déjà les fabricants, premièrement les fabricants de produits chimiques, Les grossistes locaux, ils se rendent compte qu'ils ont une perte, parce que le bio, bon, ben, non, premièrement, on met déjà pas grand-chose, puis en plus, les trois quarts du temps, c'est des produits qu'on peut à la limite fabriquer soi-même, genre style compost, le purin d'ortie en tant qu'insecticide, il y a tout un tas de... Mais c'est des trucs qui ça coûte rien. C'est pas là le... Maintenant, bah, ils ont trouvé de nouveaux trucs, alors nouveaux produits qu'on peut mettre dans l'eau, des produits solubles, hein, produits biosolubles, avant ça n'existait pas, c'était à l'arrosoir ou je sais pas comment. Hein. Maintenant vous mettez ça avec une pompe doseuse, le goutte à goutte, hein, parce que ça c'est sûr que le goutte à goutte c'est très bien, ça fait économiser de l'eau, mais si on commence à faire passer tout dans le tuyau, c'est de la perfusion. Hein, c'est... Là, pour moi, la plante n'a plus le goût du terroir, c'est terminé.
Après, on a
les... Une courge.
Dans l'arbre. Alors, une courge, il faut prendre une belle, hein. Celles qui sont abîmées, mettez-les de côté, parce qu'il y en a un peu plus.
D'accord.
Alors, une courge, plus belle. Voilà. Après, on a les topinambours. Oh là là, ce truc. 5 topinambours. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a après les topinambours? Ah, la feuille de chou, bah, magnifique. 14 feuilles. 14 feuilles de chou, de choubidou.
C'est quoi comme chou, ça?
Chou-feuille, en fait. En fait, ça fait d'un cœur, t'as que des feuilles qui sortent.
À la radio, ils disent que les carottes tordues, et etc., ils disent que c'est pas bon à manger, alors que c'est très bon. Mais nous, on les aime bien les deux, on aime bien quand ils sont tordus ou pas tordus. Ce qu'ils disent à la radio, et ben, c'est n'importe quoi.
Hop là, tac tac. Alors après, deux bouquets.
On est obligé deux ou trois fois dans la saison de tenir la permanence. C'est-à-dire qu'on vient bien à l'heure, à 6 heures, pour installer tout, pour aider les producteurs. Voilà. Et puis pour peser ce qu'il y a à peser, et puis mettre aux gens. Voilà. Et puis quelqu'un qui tient la feuille de...
Mais c'est bien fichu, le truc, là. Hein.
L'avantage, c'est ça, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mm-hmm. Ça nous oblige
c'est la surprise.
À cuisiner en fonction de ce qu'il y aura.
Voilà.
Au départ, ce n'était pas pour préserver la nature, hein, parce que je ne pense pas qu'au départ, on avait conscience de... On allait, je dirais, faire périr la planète. Mais c'était pour avoir de bons produits. Et maintenant, on a une double conscience, c'est qu'il faut préserver la terre. Quoi.
C'est plein de légumes qu'on n'achèterait pas forcément si on les verrait dans les commerces. Mais bon, finalement, on les a dans le panier, on essaye de trouver des recettes qui vont avec. Et puis, ça fait découvrir. Et puis bon, ayant des enfants, c'est vrai que c'est une richesse à faire découvrir. Quoi,
une éducation gustative, on va dire. Hein, parce que, par exemple, les pâtissons... Enfin, des pâtissons, des blettes, je pense pas qu'on va se jeter dessus lorsqu'on est... Voire même, les pâtissons, il n'y en a pas en grande surface, par exemple. Puisqu'il n'y a pas de demande, donc ils ne l'offrent pas. Alors que là, quelque part, oui, on en a, de force, j'allais dire, mais oui, on en a, mais parce que ça se produit assez facilement. Donc, du coup, bah ouais, on en a. Et puis, bah, comment on fait ça tu le cuisines comment ouais, moi, je fais comme ceci, comme cela. Ouais, c'est sympa. Moi, j'ai fait... Donc voilà, alors il y a le côté humain et puis l'éducation au goût, quoi, qui est pas négligeable.
C'est du commerce équitable local, moi. Il y a toute l'éthique du commerce équitable et ça se pratique en circuit court, localement. Et c'est vraiment un mouvement, à mon avis, un des plus durables qui soit. Hein. Ça, c'est pas délocalisable en Chine. On a déjà gagné ça, on délocalisera.
Messieurs, dames, bonsoir.
Et là, toute ta production, elle est vendue en AMAP, c'est ça?
Ouais. Là, depuis à peu près, je sais plus, 2-3 ans, qu'en AMAP 100%.
Ça marche comment, ça, alors, du coup, une AMAP?
En fait, c'est un contrat entre un producteur et un consommateur. Le producteur s'engage, pour ma part, à produire des légumes sous la charte bio. Et moi, je m'engage à amener le panier de légumes du jour à tel endroit une fois par semaine. Et le consommateur, lui, s'engage à venir chercher son panier tel jour, une fois par semaine. Ce qui est très avantageux pour le producteur, c'est qu'on sait, on a déjà aussi l'investissement. On a déjà la trésorerie pour acheter les fournitures. Et ça, c'est super important parce que on sait déjà qu'on a de l'argent pour acheter l'engrais organique, hein, bien sûr. tout ce qui est, tu vois, les bâches pour refaire les tunnels, tout ça. Et le consommateur, lui, avec ses référents, ils appellent ça les référents, c'est ceux qui s'occupent de la main, c'est eux, en fait, qui fixent le prix du panier par rapport aux charges de l'agriculteur. On se retrouve à 10 autour d'une table... Moi, j'explique le problème, si j'ai des problèmes. Et eux, ils expliquent leurs problèmes s'il y a des gens qui râlent au sein de leur AMAP. Et de là, on négocie, on dit d'accord, on va essayer de faire telle et telle variété de produits, parce que ça, apparemment, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on ait telle ou telle variété, plus de pommes de terre, ou plus de carottes, ou plus. Tu vois, c'est tout est négociable. Avec ce système, il y a des dizaines de paysans par an qui s'installent avec ce système et qui tiennent. Tu n'as pas de perte. Tu sais ce que tu vas vendre. ce qui est déjà vendu, quoi. Parce que quand tu fais un marché, tu vas avoir un coup où tu vas ramasser à fond la veille, et tu vas venir sur ton marché, et puis paf, il pleut. Ah, il n'y a pas de client. Tu vas rentrer avec tout ce que tu as ramassé, et puis ton légume sera tout de suite plus frais, quoi. Et ben ton produit, et ben, tu peux le jeter. En tant qu'AMAP, ou producteur en AMAP, on oublie le prix au détail, au prix au kilo. Si on peut un peu regarder, ça peut faire des paniers d'hiver où les gens payent 18 euros, ils ont peut-être dans le marché, suivant les cours du marché, ils ont peut-être un panier à 15 ou 12 euros, tu vois. Et au printemps, au mois de mai, c'est le top. C'est le top. Là, c'est la récompense en fait que l'agriculteur fait à ses amapiens. Ils payent 18 euros, mais ils ont peut-être un panier qui vaut 20, 25, 30 euros, on ne sait pas.
Et là, tu ramasses quoi ?
Les choux feuilles. Enfin, en fait, c'est des choux frisés, mais nous, on ramasse que les feuilles. Donc voilà. Parce qu'en fait, ça fait une longue tige qui monte, comme les choux de Bruxelles. Et voilà, les feuilles se mangent, donc même la tige, hein, et ça se mange haché, avec du riz ou... en pot-au-feu, dans la soupe, voilà.
Cyrielle, la compagne de Simon, travaille elle aussi pour remplir les paniers toutes les semaines. Et oui, quand on vous parle d'exploitation familiale, chez les Charliers, c'est du sérieux.
Et être maraîchère avec un bébé, c'est pas trop difficile hein, à organiser les deux.
En fait, j'aime pas la simplicité, alors... Donc j'ai bien choisi. Non, bah c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Partout où j'allais, je l'emmenais, donc il me suivait partout, dans les haricots verts, dans les petits pois. Voilà, puis arrivé à un certain âge, bah, à partir de 6 mois, ça a commencé à être dur. Et puis après, bah, au mois de novembre, ils m'ont dit « Ouais, on peut vous le prendre un peu à la crèche. » Donc là, ça m'a bien soulagé. Ça a soulagé aussi, je pense, Claudine. Mais bon, ils le prennent pas tout le temps, mais ils le prennent tous les matins déjà, ça c'est sûr, tous les matins, et de temps en temps, toute la journée. Donc c'est très pratique. Il faudrait qu'il y ait la deuxième mamie qui soit là, ce serait mieux. Mais bon, ma mère, elle est trop loin. Alors. Enfin, c'est moi qui suis trop loin. Parce qu'elle, elle a pas bougé.
Et tes parents, ils sont pas agriculteurs ?
Non. Mon père travaille à la poste. Et ma mère est femme au foyer.
Et leur fille maraîchère, alors, ils s'y attendaient ?
Non, ils auraient voulu que je fasse autre chose que ça. Voilà. Ils disent que c'est pas un boulot approprié, qu'il aurait mieux valu que je travaille dans un bureau, vu que j'avais fait des études. Ils ont une image de l'agriculteur qui est différente de celle que je véhicule, sûrement. Mais bon.
Et pour toi, un agriculteur, c'est quoi, là ?
Un agriculteur, bah, c'est quelqu'un qui travaille la terre, qui est à l'écoute de la nature, qui est soucieux de l'alimentation des gens, et qui aime son travail, qui compte pas ses heures, voilà, qui mange ce qu'il produit aussi, parce que bon, voilà. Bon, c'est sûr que l'objectif, ce serait aussi un peu d'être autonome, mais bon, ça... être autonome sur la ferme, ça se fait pas tout de suite, hein, vu que bon, bah, on est quand même deux jeunes couples avec un bébé. Il a fallu, c'est encore en cours, faire des logements à un peu décents, donc c'est pas terminé. Tant que ça c'est pas terminé, on va pas prendre d'autres animaux, mais ça se fera. Je sais plus combien j'ai de feuilles. Hein.
Là, je... On les recomptera si tu veux.
Ouais, je crois, ouais. C'est pas grave. Sinon, je vois bien que j'en ai pas assez. C'est 40 personnes, ça fait quand même. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois par an, voire deux fois, on essaie de le faire au moins deux fois par an, on se réunit chez les Charliers et on met tout à plat leur compte d'exploitation. Ils nous sortent toutes leurs comptas, leurs charges sociales, leurs factures, ce qu'ils gagnent pas, où ils en sont, etc. Ils ont accepté de jouer la transparence totale et nous la confiance totale, si bien qu'ils mettent tout sur la table et ensemble avec eux, nous décidons du revenu qu'ils vont avoir
tous les mois, ce qui est quand même assez superbe de leur part de le jouer aussi transparent. Et nous, d'accepter de payer le prix du panier nécessaire à couvrir ce revenu et toutes les charges.
Moi, je sais que c'est l'image de l'agriculteur, elle est revalorisée grâce à ces gens. L'agriculteur, avant, c'était un gars plein de soucis et puis avec des charges très lourdes et qui en fait ne vivait pas bien. Enfin, c'est le regard que les gens avaient sur l'agriculteur. Bah, l'agriculture, ouais, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est pas la peine de le faire, alors que c'est quelque chose qui est quand même essentiel pour l'homme. Faire de la nourriture, c'est essentiel, sinon on vivrait pas, quoi. Voilà, et donc moi je pense que grâce à ce système aussi, ça revalorise le métier, tout simplement.
Le fait de ne pas gagner des milliers d'essences, comme tu disais hier, c'est pas non plus un problème.
Non, c'est pas un problème, parce que bon. C'est pas ce que j'espère, moi ce que je veux c'est continuer et puis avoir une vie bien fournie, mais normale quoi, pas me retrouver, ça pourrait plaire à beaucoup de gens, moi je sais pas si ça m'arriverait de gagner au loto, ouais d'accord, mais si je gagnais 10 millions au loto, ben moi je rachèterais 10 millions de terrains et je mettrais plein d'agriculteurs, j'achèterais des tracteurs et tout, enfin ouais c'est une façon, c'est juste l'investissement. Qui manque.
Tu le placerais pas en Suisse ?
Ah, ben non, ça je sais pas, je pense pas, non. La région PACA, c'est la Californie française, c'est là où il fait toujours beau, où on a de quoi se détendre, se divertir. Hein. Est-ce que leur argent, ils l'investissent dans quelque chose de durable et puis qui serve aux autres ? Ça, c'est, il y en a sans doute, qui font des choses bien avec leur argent, mais il y a d'autres qui doivent faire des choses... très mauvaise, voire qui peuvent nuire à la population. Rien que pour leur intérêt personnel, parce que monsieur, moi je suis riche. C'est moi qui ai le pouvoir.
Et toi ce que tu fais, par contre, t'as l'impression que ça
voilà.
sert
Moi j'ai l'impression que ça sert. C'est moi ce qui est gratifiant dans mon métier, c'est quand tu vois que la personne dit « Ah, c'était très bon les salades la dernière fois. Oh, bah, vos tomates, elles sont très bien. Hein. J'en ai jamais mangé des comme ça. » Tout ça, c'est des petits trucs qui font plaisir. Puis ça remet le peps, quoi. Après, on a envie de continuer. Moi, je trouve ça très, très gratifiant.
C'est Pierre Rabhi qui raconte cette histoire merveilleuse. Et il dit toujours « Un jour, dans la forêt, il y a un grand feu qui se déclenche. » Et alors tout ça flamme de partout, il y a des grandes flammes, la forêt est dévorée par le feu. Et puis tous les animaux, évidemment, se mettent à courir, à fuir, etc. Et puis il y a un petit colibri tout petit, qui a un tout petit bec. Et puis lui, il court, il vole, il va à la rivière, il prend dans son bec une goutte d'eau, puis il va sur l'incendie, il jette sa goutte d'eau, puis il repart chercher de l'eau, puis il revient. Puis à un moment, il y a des animaux qui s'arrêtent, puis qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais, colibri ? Mais ça sert à rien, ce que tu fais. Ça ne peut pas éteindre le feu. » Il a dit « Je sais, mais moi, je fais ma part. »
Après une si jolie conclusion, que rajouter de plus si ce n'est un grand merci à Stéphane, Cyrielle, Simon, Gérard, Claudine, Célie, Emrys et Samuel pour leur accueil, ainsi qu'à tous les Amapiens pour s'être prêtés au jeu du micro.
Une petite chose à rajouter cependant, un grand merci à la petite Lula, et c'est promis, nous, à la radio, on va pas se priver de dire qu'elles sont très bonnes les carottes tordues des Charliers.
L'épisode que vous venez d'entendre a été entièrement brodé à la main et réalisé avec des techniques artisanales par Goulven Maréchal et Alex Illis.
Nous tenons à signaler qu'aucun paysan n'a été maltraité durant ce tournage.
Et si vous voulez en savoir plus sur notre projet, consulter des photos, des épisodes inédits et des bonus réalisés dans d'autres exploitations, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.duverdanslesoreilles.fr.